Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast sur Major Prépa en partenariat avec Neoma Business School. Et cette fois-ci, eh bien, je me trouve avec Aurélien Rouquet. Aurélien, bonjour.
Bonjour.
Alors Aurélien, vous êtes donc professeur de logistique et de supply chain management à Neoma, précisément. Peut-être dans un premier temps, je vous laisse vous présenter un peu plus amplement.
Oui, donc j'enseigne effectivement la logistique et la supply chain dans les différents programmes de l'école. Donc ça veut dire que moi, je fais cours auprès des étudiants, d'une part, et que d'autre part, je coordonne des cours dans lesquels il y a d'autres intervenants en logistique et supply chain qui interviennent. Donc ça, c'est une partie importante de mon travail. Et puis une deuxième partie importante de mon travail, c'est de faire de la recherche dans ces domaines de la logistique et de la supply chain. Donc je participe à une association qui s'appelle l'Association internationale de recherche en logistique et supply chain management. Et moi, à titre personnel, je travaille beaucoup sur plusieurs sujets. L'histoire de la logistique et de la supply chain qui m'intéresse pas mal. Et puis aussi tous les enjeux aujourd'hui qu'il y a en termes de logistique de distribution. J'ai beaucoup travaillé sur les drives, je travaille actuellement sur le quick commerce, j'ai travaillé sur la crowd logistique, ce genre de sujet. Ce qui me permet évidemment de faire des liens entre les évolutions actuelles et ce que j'enseigne dans le cadre de mes cours. Et puis, dernier point quand même important, je suis aussi rédacteur en chef de la Revue française de gestion, qui est la principale revue francophone dans le domaine des sciences de gestion et du management. Et donc, j'ai cette mission qui est aussi assez importante dans mon activité.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire comme en prépa, de définir les termes du sujet, précisément la logistique et la supply chain. Le supply chain, pardon, c'est peut-être des termes un peu nébuleux pour ceux qui ne sont pas encore en école de management. Est-ce que vous pouvez simplement préciser en quoi consistent ces deux termes?
On a coutume de dire que la logistique, le supply chain management, c'est la gestion des flux d'une entreprise. Une entreprise, pour fabriquer un produit, elle a besoin de matières premières qui vont être transformées dans des usines, puis acheminées vers les clients à travers des entrepôts et des magasins. Et ben, la logistique, la supply chain, c'est gérer l'ensemble de ces flux, depuis les matières premières jusqu'au consommateur, pour que ces flux circulent de manière fluide, continue, optimisée. Avec en plus aujourd'hui de manière de plus en plus importante la question des flux retours, puisqu'il va s'agir aussi de recycler, revaloriser les produits pour mettre en œuvre cette économie circulaire. Et pour avoir une économie circulaire, il faut des flux qui vont vers les clients et des flux qui reviennent des clients vers les entreprises et qui soient retraités et valorisés.
Bon, extrêmement clair. Alors, on peut revenir d'abord de manière préliminaire sur d'abord l'importance en réalité de la supply chain. C'est quelque chose en réalité qui était extrêmement structurant dans la mondialisation contemporaine que l'on connaît aujourd'hui et que, enfin, telle qu'elle existe, on va dire, depuis les années 80.
Alors oui, je dirais, moi, quand j'ai commencé à faire cours, les étudiants n'avaient pas forcément conscience de cette importance-là. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les tensions dans les chaînes de valeur, ce qui s'est passé avec la crise Covid, la logistique, la supply chain, tout le monde a conscience que c'est important. Moi, pour bien avoir en tête cette importance, je fais un espèce de parallèle avec cette série, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle 10%, où voilà, c'est oui. Les agents de stars qui prennent 10% aux stars. Bah, dans le monde de l'entreprise, les stars, c'est un peu l'industrie, c'est un peu le commerce. Mais en fait, la logistique, elle prend 10% de tout ça, en fait. Parce que quand on regarde les dépenses du PIB mondial, la logistique, c'est 10 à 14% de ces dépenses en termes de transport et d'entreposage. Quand on regarde le coût d'un produit, c'est entre 8 et 15% de la logistique. Le nombre d'emplois en France, 8-10%. Et puis, l'empreinte carbone de la logistique, la supply chain, 10-12%. Donc voilà, on a à peu près toujours ce même ordre de grandeur qui est conséquent, quoi. 10% du monde, entre guillemets, c'est quelque chose de vraiment absolument stratégique.
Oui, on le comprend bien, effectivement. Dès lors, on comprend justement l'importance pour les entreprises, a fortiori les très grosses entreprises, hein, les mastodontes de l'industrie, du commerce de manière générale, de justement gérer, optimiser ces chaînes de valeur. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples un petit peu éloquents?
Mais en fait, aujourd'hui, une entreprise, elle doit avoir une stratégie industrielle couplée à une stratégie logistique. C'est-à-dire que la valeur qu'on propose à des clients, c'est plus uniquement une valeur liée au produit en lui-même, mais c'est aussi lié à la disponibilité des produits. Un Apple, par exemple, il est excessivement fort du fait de sa conception des produits, mais aussi de sa supply chain qui permet d'acheminer rapidement des tonnes d'iPhone ou des tonnes de MacBook Air qui sont demandées par les clients. Donc aujourd'hui, c'est un incontournable pour les entreprises d'intégrer une vision supply chain qui est centrée non plus sur les produits, mais aussi sur la mobilité. Et puis, ce qu'on peut souligner, c'est que pour faire ça, en fait, la plupart des entreprises industrielles ou commerciales, les distributeurs, les Leclerc, les Carrefour, les Walmart, font appel à ce qu'on appelle des prestataires de services logistiques qui sont des acteurs clés de la mondialisation. Hein. On pense souvent aux grands acteurs du digital, les Google, Facebook, etc., qui jouent un rôle clé dans la mondialisation. Mais pour que les produits circulent, il faut des acteurs logistiques. Mmh. Et ces acteurs logistiques, ce sont des DHL, des FedEx, des UPS, des CMA-CGM en France, qui s'est notamment dernièrement beaucoup développé, qui sont responsables de l'acheminement de ces produits, du transport, de l'entreposage, et qui sont des gigantesques multinationales avec plusieurs centaines de milliers d'employés, voilà, des mastodontes de la mondialisation.
Alors justement, comment ces chaînes de valeur ont été recomposées à l'aune de, notamment du Covid et même de manière générale, on sent hein, à l'échelle mondiale justement cette remise en cause de la mondialisation bienheureuse, voilà, la fin de l'histoire telle que Fukuyama la prédisait. Voilà, dans quelle mesure justement ces chaînes de valeur ont été recomposées à l'aune de ces différents événements?
Alors, c'est pas une question simple. Je dirais qu'il n'y a pas encore eu une vraie recomposition et qu'elle est en cours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé et qu'on prend n'importe quelle chaîne logistique, elle fait appel à des produits, des matières premières qui sont en provenance de différents pays. Donc, on va pas revenir comme ça, en un clic à tout produit en France ou tout produit aux États-Unis. Oui. C'est pas possible. Par contre, se pose la question d'avoir une analyse stratégique des matières premières, des éléments dans ces supply chains dont on est très fortement dépendant, et de chercher à réduire cette dépendance. Ce qui veut pas dire uniquement rapatrier sur son sol. Ça peut vouloir dire effectivement rapatrier sur son sol certaines choses qu'on considère comme stratégiques, mais ça peut vouloir dire, par exemple, diversifier ses sources d'approvisionnement pour ne pas être dépendant d'un seul type d'acteur. Mmh. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui évoluent, avec aussi, il faut quand même le mentionner derrière tout ça, la question de l'empreinte carbone de la logistique, puisqu'on fait face au réchauffement climatique, et que du fait du poids de la logistique dans l'empreinte carbone, c'est aussi une question absolument clé qui est derrière cette recomposition.
Mmh. Ouais, extrêmement clair. Alors peut-être on peut évoquer quelques-uns justement de ces routes majeures, à commencer peut-être par la route de la soie. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Quelle est aujourd'hui la réalité de ces nouvelles routes de la soie voulues par le gouvernement chinois?
C'est un projet qui est bien avancé, mais ce qui me semble intéressant dans l'exemple des routes de la soie, c'est que en fait, quand on fait l'historique du développement de la logistique et de la supply chain, c'est une notion, un concept qui a d'abord été repris par les entreprises, enfin qui est d'origine militaire. Hein. La logistique, c'est un terme qui a été remis au goût du jour par un Suisse qui s'appelle Antoine-Henri de Jomini, qui a servi sous Napoléon et qui dit dans l'art de faire la guerre, il y a la stratégie, la tactique et la logistique. À partir des années 60-70, les entreprises se sont réappropriées ce concept. On a vu apparaître des directeurs logistiques, des directeurs supply chain. Et la nouveauté depuis les années 2000, c'est que les États aussi se mettent à avoir une vraie réflexion logistique. Et l'exemple chinois, c'est ça. Les nouvelles routes de la soie, c'est un projet pharaonique de contrôle des supply chains, de contrôle logistique, puisqu'il s'agit d'avoir des investissements dans des ports, dans des routes ferroviaires, dans des routes maritimes, pour pouvoir justement n'être pas uniquement sur la fabrication des produits en Chine, mais aussi sur le contrôle de leur circulation. Et la plupart des États ont, entre guillemets, réagi. Hein. Récemment, Joe Biden a lancé des ordonnances sur la souveraineté des supply chains américaines quand il a été...
Le plan de sécurisation.
Mmh. Et en France, on a, en décembre dernier, enfin adopté une stratégie nationale logistique sous l'égide de l'association France Logistique qui a été créée il y a 2 ans. Pour répondre un petit peu à cette stratégie chinoise. Mais on voit bien que du coup, la question de la circulation des flux à l'échelle mondiale est un enjeu géopolitique majeur aujourd'hui, à la fois pour des questions économiques, puisqu'il y a de l'argent derrière, et puis on pourrait aussi parler des questions de souveraineté et de guerre, parce que quand on a des ports de marchandises, on peut les utiliser aussi pour faire la guerre. Donc il y a quand même aussi derrière cette question-là, la question de la guerre, puisque... je vous l'ai mentionné au début, la logistique, initialement, ça sert à faire la guerre, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça. Oui, on peut penser à l'exemple du collier de perles chinois, notamment, si on extrapole un petit peu. Alors, ce que vous évoquez aussi, par ailleurs, dans vos recherches, c'est la question de la transformation logistique de la consommation. Là aussi, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion?
Oui, alors, ce qui est très clair, c'est que quand on se place une trentaine, une quarantaine d'années en arrière... la manière dont on consommait, c'était très organisé, de manière voilà, avec des manières dominantes de s'approvisionner. Enfin, il y avait l'hypermarché, et en gros, ça s'inscrivait dans une organisation familiale où, globalement, c'était les femmes qui allaient faire les courses, voilà, et on allait s'approvisionner une fois par semaine. La question de la logistique et de la rapidité logistique était moins importante. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a une multiplicité des canaux pour s'approvisionner. Mmh. L'hypermarché, le drive piéton, le quick commerce, la livraison à domicile. Où la question de la rapidité d'approvisionnement, elle devient un critère de choix décisif pour la part pour les consommateurs. Où on est de plus en plus pour consommer, mis à contribution nous-mêmes pour faire de la logistique, pour transporter, pour stocker. Enfin, l'exemple classique, c'est l'exemple d'IKEA. Et où, même si bien sûr, quand on regarde les enquêtes, voilà, les femmes font encore beaucoup plus de tâches matérielles, c'est quand même beaucoup plus réparti dans les couples et dans les familles. Donc, on est tous à prendre en charge de plus en plus des tâches logistiques au quotidien. Et voilà, dans les conversations des gens, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, hein, on utilise beaucoup le choix « j'organise la logistique » ou « je m'occupe de la logistique ». Voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans le langage courant du quotidien, quoi. Donc la consommation, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est entre guillemets symbolique, mais c'est aussi quelque chose qui est matériel et qui suppose une organisation concrète qui s'est très, très fortement transformée dans les dernières décennies, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, vous citez l'exemple d'IKEA, on peut citer évidemment l'exemple d'Amazon également, hein, qui est là aussi très, très significatif, au point que Amazon est même, après tout, le cœur de métier d'Amazon, c'est la logistique finalement.
Alors, oui, alors je pourrais avoir tendance à dire ça, mais malgré tout, le digital est aussi quelque chose de très, très important pour Amazon. C'est cette union des deux qui fait, entre guillemets, la force d'Amazon. Mais effectivement, Amazon, d'une part, a tiré les contraintes et l'offre logistique, puisque voilà, maintenant, c'est en quelques heures qu'on peut avoir ses produits quand on les commande sur Amazon. Mmh. Et que derrière tout ça, il y a un gigantesque réseau d'entrepôts, d'opérateurs, voilà, qui permet à Amazon de fonctionner. Et que c'est aussi assez significatif. Amazon est devenu, alors ça change, je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est le cas, mais la première capitalisation au monde, enfin, elle l'est, puis elle, après, c'est...
Oui, c'est Apple actuellement.
Voilà, enfin, ça fluctue, ouais. Mais voilà, c'est quand même très, très symboliquement un message assez important, quoi.
Mmh, oui, effectivement. Alors, on a parlé aussi de l'importance de la logistique dans la notion de guerre. Elle est aussi dans la notion de crise, hein, bien naturellement. Et le monde ne manque pas de crise, malheureusement, actuellement. Là aussi, dans quelle mesure la question logistique est prépondérante alors, on l'a dit, pendant la crise du Covid qu'on a déjà évoquée, il y a évidemment la guerre à la porte de l'Europe, les questions d'approvisionnement que ça suppose, notamment en matières premières. Voilà, bon, la question est assez large, mais pouvez-vous dresser un panorama un peu de la question logistique à l'aune des différentes crises justement que nous traversons, notamment en tant que Français?
Alors peut-être, et ça permettra aussi de montrer les liens entre recherche et enseignement. Qu'est-ce que dit la recherche sur le sujet? En fait, là, votre question sur les crises, elle renvoie finalement à deux crises différentes. La guerre en Ukraine, c'est y a un pays qui est envahi et évidemment ça perturbe les chaînes logistiques qui dépendent de ce pays.
Et oui, voilà. Oui, donc, outre les sanctions, voilà, par ailleurs.
Outre les sanctions par ailleurs, etc. Bon, enfin, je parle pas du volet politique avec la Russie, je parle vraiment du volet supply chain. Donc là, qu'est-ce qu'une entreprise doit faire? Qu'est-ce que la littérature nous dit? On doit avoir des démarches de supply chain risk management, c'est-à-dire que quand on met en place sa chaîne logistique, on va faire une analyse des risques, et cette analyse des risques, elle nous conduit à mettre en place un certain nombre de stratégies pour soit avoir des plans qu'on peut facilement activer quand un risque intervient, soit pour au contraire essayer de diminuer le risque à la racine. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est dans un monde où les crises se multiplient, d'avoir cette gestion des risques à l'échelle de la supply chain qui est avancée. Donc ça, c'est pour le volet peut-être guerre en Ukraine. Et puis le deuxième volet pour le côté crise Covid, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise qui appelle une réponse? Parce que la crise Covid, elle appelait une réponse logistique, une réponse en termes d'approvisionnement d'un certain nombre de choses, de masques, de vaccins, voilà. Et là, la recherche a beaucoup travaillé sur les organisations logistiques de l'humanitaire, par exemple Médecins Sans Frontières. Et on sait très bien comment Médecins Sans Frontières fonctionne et comment bah, il faut, par exemple, réagir en temps de crise. Et en fait, le point clé, c'est la préparation. Médecins Sans Frontières, ils préparent des réponses aux crises, puisque bah, un tremblement de terre va arriver, il faut qu'en 2-3 jours, on puisse acheminer des secours sur place. Et donc, ils ont toute une logistique de préparation où ils ont des conteneurs pré-préparés qui sont en kit, qui sont prêts à envoyer, stockés quelque part pour réagir. Face à des crises comme ça, bah, la question clé, c'est d'avoir donc des organisations de préparation avec des stocks qui sont prêts à actionner une réponse rapide qui est indispensable. Et donc, c'est ce qui nous a notamment manqué un petit peu en France au moment de la crise du Covid, puisqu'on avait un établissement de préparation qui avait été un petit peu diminué par un certain nombre de réformes hein, et qui a fait qu'on a eu un certain nombre de soucis, notamment au niveau de ces fameux masques dont le stock manquait au début de la crise.
Mmh. Et alors justement, est-ce que cette crise a été riche d'enseignements et est-ce que si une crise similaire survenait, les choses seraient un petit peu différentes aujourd'hui ?
C'est difficile pour moi d'y répondre. Après, ce qu'on peut constater, c'est que suite à cette crise, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été pointées du doigt. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Et en tout cas, il y a une réorganisation qui a été décidée à l'échelle de l'État. Après, elle est encore en cours. Mais autant... même si pour moi c'était quand même dommageable cette organisation au début de la crise, enfin, ces défauts-là, on les a retrouvés dans de nombreux pays, autant je pense qu'on ne pourrait pas pardonner à l'État de ne pas s'être... voilà, de ne pas avoir tiré les conséquences de la crise Covid pour les prochaines crises. Ça serait quand même assez fou.
Mmh, oui, effectivement. Bon, enfin, l'avenir nous le dira comme on a coutume de le dire. Une question aussi que nous n'avons pas encore évoquée, ou du moins en creux, c'est la question évidemment du développement durable et de l'impact carbone. Alors, vous l'avez dit, c'est environ 10%, peut-être un tout petit peu plus de l'impact, on va dire, environnemental global de l'économie. Simplement, est-ce que ce secteur de la supply chain, de la logistique est... particulièrement concernés par ces enjeux? Est-ce que vous sentez que les acteurs de ce secteur sont disposés justement à changer leurs pratiques pour réduire leur impact carbone?
Alors oui, c'est clairement un enjeu aujourd'hui. Je veux dire, les gens qui travaillent dans le domaine de la logistique, ils savent que c'est un enjeu. Juste pour préciser un petit peu les chiffres, les évaluations, c'est 1-2% pour les entrepôts, terminaux portuaires, aéroportuaires, mais qui ne constitue pas un énorme problème en termes de décarbonation parce que on peut mettre des panneaux solaires sur les entrepôts, on peut utiliser d'autres sources d'énergie, notamment du nucléaire pour les approvisionner. Alors que les 8% restants, c'est du transport maritime, du transport aérien, du transport routier, et que ça marche à du pétrole. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à décarboner. Donc, le vrai sujet, il est autour de cette question du transport et de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette solution. Et très clairement, là, il faut absolument revoir de fond en comble les choses en ayant des actions qui soient à la fois sur les sources d'énergie utilisées, donc avoir différentes type de mode de transport, avec du transport électrique, à hydrogène, etc. Avec une action sur les flux, parce qu'il va s'agir aussi de réduire à la racine un certain nombre de flux qui sont non indispensables pour diminuer l'empreinte carbone, en mutualisant mieux les transports, en ayant des routes plus plus mutualisées, en supprimant les retours à vide qui sont encore trop nombreux. Donc voilà, on a des actions à mettre en place, mais qui sont loin d'être évidentes et loin d'être faciles, parce que aujourd'hui, je vous parle de supprimer les retours à vide, les entreprises cherchent à les supprimer, ça leur coûte de l'argent, les retours à vide.
Donc
c'est pas comme si...
Oui, c'est un impératif économique aussi.
Mais c'est pas comme si la question ne se posait pas depuis de nombreuses années, oui. et ce n'est pas si facile que ça de les supprimer, parce qu'il y a des raisons qui les expliquent, quoi. Donc, alors après, les entreprises du secteur, elles sont plus ou moins avancées, et elles sont plus ou moins moteurs sur ces sujets-là. Un certain nombre de grands prestataires de services logistiques sont quand même enclins à se lancer là-dessus. Je pense par exemple en France à un prestataire comme FM Logistique qui fait quand même beaucoup de choses sur le sujet et qui fait de la question de l'empreinte carbone et du développement durable une de ses priorités en termes stratégiques. Mais c'est pas du tout évident parce que il faut pas oublier que le secteur de la logistique, du transport, c'est aussi un secteur qui a plein de petites entreprises à faible marge, avec des questions voilà, du coût de ces actions à prendre en compte. Donc c'est loin d'être facile pour le secteur dans son ensemble, quoi.
Mmh. Oui, effectivement, oui. C'est toute la subtilité. J'avais appris lorsque j'étais en classe prépa que justement un conteneur par exemple qui a été produit en Chine et qui va être acheminé en Europe, bah, finalement il va coûter plus cher sur les 50 derniers kilomètres qui va permettre de l'acheminer là où il faut précisément que sur les 7 ou 8 000 kilomètres qui va parcourir en bateau pour être acheminé jusqu'en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette dualité entre le transport sur les très longues distances et puis d'autre part justement réussir à emmener justement ces différentes marchandises précisément là où il faut. Alors justement, est-ce que on va, à votre avis, vers une réduction de manière générale des distances, ou est-ce que finalement le modèle que l'on connaît aujourd'hui, une production majoritairement en Asie pour un marché occidental, est-ce que c'est quelque chose qui est amené à perdurer encore?
Alors, j'aurais tendance à dire que la question n'est pas forcément uniquement la réduction des distances. On a toujours tendance à aborder cette question de l'impact carbone de ces supply chains par la réduction de la distance. Mais même quand on a des circuits courts, se pose la question de la logistique. Vous faites une AMAP, une association entre un agriculteur et des gens qui vont prendre des paniers. Toutes les semaines. Bah, toutes les semaines, il va falloir distribuer ces paniers. Si les gens ils prennent leur voiture pour aller récupérer les paniers, bah, il y a un impact carbone.
Bien sûr.
Et en fait, l'enjeu, il est plus mettre en place des logistiques les plus mutualisées possibles et les moins impactantes. Si on a une forte distance, mais qu'on a des moyens de transport qui sont assez propre utilisé, pas d'avion, mais du ferroviaire ou du maritime. C'est pas un problème. Ça peut être un problème d'avoir une logistique plus courte, mais qui utilise des moyens qui sont non mutualisés et qui sont plus impactants en termes carbone. Donc la question, elle est plus là. Et elle nécessite à chaque fois une analyse fine et précise de l'impact carbone de tel ou tel type de chaîne logistique. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que la question, il faut la reposer sous cet angle-là, cet angle de l'analyse carbone réelle et concrète de telle chaîne logistique pour la diminuer, quoi.
Mais voilà, la distance n'est pas, rarement le métrique véritable.
Voilà, c'est pas la métrique qu'on doit prendre en compte. La métrique qu'on doit prendre en compte, c'est l'impact carbone, quoi.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça qu'il faut chercher à réduire. Et ça peut vouloir dire, bien sûr, je suis pas en train de dire que qu'il faut pas réduire la distance.
C'est un élément parmi beaucoup d'autres.
Mais c'est un élément parmi beaucoup d'autres et il faut pas uniquement raisonner comme ça, quoi.
Bien, une dernière question que je voulais vous poser, là, sans transition aucune cette fois-ci, mais simplement mettre en lumière aussi une initiative que vous avez adoptée à Neoma. Donc, on le sait, voilà, Neoma est très lié à Leclerc, qui a des enjeux logistiques évidemment très importants. Vous avez mis en place un programme qui utilise la réalité augmentée, justement, et bien pour faire travailler les élèves autour de cette question de la logistique. Là aussi, est-ce que vous pouvez simplement expliquer de quoi il s'agit et dans quelle mesure justement la réalité augmentée permet de rendre l'expérience d'auto plus intéressante pour les étudiants?
Alors, c'est pas exactement la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle immersive.
Ah, il y a une subtilité, d'accord.
Voilà, ce qui est pas la même chose, la réalité augmentée, c'est on va avoir par exemple une application, on a des lunettes et on augmente la réalité qu'on voit. Alors que là, on pénètre une réalité
qui est
exactement celle qu'on va retrouver dans un entrepôt. La réalité virtuelle, c'est une technologie qu'on utilise à l'école depuis maintenant plusieurs années. On a été les pionniers dans le domaine du supérieur à utiliser cette technologie. Et l'intérêt qu'on y a vu, c'est que c'est une technologie qui permet d'aller dans un lieu, de le capturer et de le mettre en salle de classe. Moi, à titre personnel, en tant que prof de logistique, j'emmène souvent mes étudiants visiter des entrepôts. C'est hyper pédagogique, ça les intéresse, ça permet vraiment de voir ce qui s'y passe. Mmh. Mais c'est compliqué à organiser. Les entrepôts, ils sont en périphérie, il faut prendre un car. On visite pas un entrepôt à 50, 60 étudiants. Donc, on le fait pas tout le temps. On le fait avec les publics très spécialisés en supply chain. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on a été capturé dans un drive Leclerc, cet entrepôt, à partir d'objectifs pédagogiques. On a tourné avec des caméras 360, on a fait des entretiens avec les opérateurs réels qui fonctionnent. Et en salle de classe, avec leur téléphone et des lunettes au mido, des casques, ils peuvent se balader dans le drive comme s'ils y étaient. Donc, grâce à cette technologie, j'ai pu faire passer 2000, 3000 étudiants qui ont visité des entrepôts, enfin l'entrepôt Leclerc, et qui ont pu comprendre de manière beaucoup plus immersive, ludique et expérimentielle comment ça fonctionne. Donc, l'intérêt de la technologie, c'est celui-là, quoi. C'est c'est pas, je dirais, aussi bien qu'une visite réelle, mais c'est en tout cas quelque chose qui permet d'avoir beaucoup plus facilement qu'une explication de voilà, un entrepôt, c'est comme ça, il est composé de tel ou tel type de zone. Bah, là, on vit les zones, on s'y balade, quoi.
Et alors, les premiers retours, justement, d'expérience que vous avez eu des étudiants qui ont suivi ça?
Les étudiants, ils sont ravis, hein. On les voit, ils sont en salle de classe avec leur casque, et là, c'est grand silence, ils sont tous en train d'écouter. On les voit qui tournent leur tête parce que c'est ça qui permet de se déplacer dans l'application. Et non, ils aiment beaucoup le cas, c'est très interactif. Et ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que ce qui m'a conduit à travailler sur ce cas, c'est aussi des recherches antérieures. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé sur les drives, et donc c'était un débouché, entre guillemets, naturel de faire ce cas, parce que j'avais fait de la recherche sur le sujet, donc je la transcris aussi dans mes enseignements, et c'est aussi notre rôle en tant que professeur à l'école, on est sur de l'enseignement et de la recherche, et de faire que la recherche, elle l'infuse dans nos enseignements.
Dernière question pour vous, alors voilà, pour les étudiants qui d'aventure seraient intéressés justement par ce secteur et qui voudraient en faire leur métier plus tard. D'abord, est-ce que le marché est assez dynamique? Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés pour ces étudiants-là? Et ensuite, quels sont les enjeux de demain de la logistique? Quels sont les enjeux en tant que manager auxquels ils devront faire face?
Alors, le secteur de la logistique, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui a à peu près 8 à 10% des emplois en France. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui sont très opérationnels, hein, chauffeur routier, cariste, mais il y a en termes de management la fonction de responsable logistique ou directeur supply chain qu'on retrouve maintenant dans quasiment tous les comités directeurs des entreprises. Donc, c'est une fonction de direction, au même titre que les fonctions marketing, les fonctions finance, qui est très importante et qui permet même d'accéder à des postes de dirigeant. Hein. Je prends souvent cet exemple avec mes étudiants, mais celui qui a succédé à Steve Jobs à la tête d'Apple, c'est Tim Cook, il était directeur de la supply chain. Donc voilà. Donc c'est des débouchés, et c'est des débouchés pour les étudiants qui sortent d'école de commerce de manière très claire. Il y a aussi des étudiants d'école d'ingénieurs qui vont vers ces métiers-là, souvent dans des univers un peu plus industriels. Y a des enjeux énormes, hein, les enjeux de la décarbonation, les enjeux de reprendre le contrôle et la souveraineté sur les chaînes de valeur, des enjeux de distribution aussi et de multiplication des canaux qui se posent, donc qui font que c'est un métier qui, à mon avis, va continuer à évoluer, va continuer à être passionnant et dans lequel aussi, peut-être pas suffisamment mentionné, mais dans lequel les technologies jouent un rôle très important. Hein. Le pilotage des flux physiques, il passe par de l'information. Hein. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas piloter les flux. Donc, les révolutions technologiques en cours, elles vont conduire, encore une fois, à renforcer ce rôle de responsable logistique et supply chain dans les entreprises.
Qui est très clair. Un grand merci à vous, donc Aurélien Rouquet, je le rappelle, donc professeur de logistique et supply chain management à Neoma Business School. Merci donc pour l'ensemble de vos réponses. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast en partenariat avec Neoma. On se retrouve d'ailleurs pour de prochains épisodes très prochainement. Donc voilà, restez à l'écoute et à très bientôt donc sur Major Prépa.